Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Comment bien parler en public, sans peur ni reproche, c'est notre thème ce matin. L'art de bien parler pour mieux maîtriser de nombreux aspects de sa vie quotidienne. Nous allons vous aider à allier le fond et la forme, à maîtriser cet art de bien penser, de bien raisonner et de s'exprimer avec fluidité. Pas toujours évident quand on a les idées claires, mais que l'on peine à les formuler oralement avec aisance et clarté. Nous vous délivrons quelques clés pour mieux dompter cet art de plaire, d'émouvoir et de convaincre cher à Cicéron, cet art oratoire désormais à la portée de tous et qui n'est plus réservé à une élite. Nous attendons toutes vos questions sur la prise de parole en public au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Déjà, je suis issu d'un quartier assez difficile, on va dire. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ces grands orateurs, pour ces politiciens plutôt. Même Sarkozy, j'admirais beaucoup quand il se mettait là, de sa petite taille.
Ouais, je veux une France libre.
Et là, je me disais, mais putain, je te crois pas, mec, mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce que tu m'emportes? Et un autre discours politique qui m'a beaucoup marqué, c'est le discours de Gaulle à la Libération. Paris libéré, Paris martyrisé, je sais plus exactement les termes, mais c'était très, très galvanisant. Et je me suis dit, c'est cool de parler, en fait. Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde.
Extrait du documentaire « À voix haute » de Stéphane de Freitas et Lajli. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous enseignez l'art oratoire à Sciences Po et HEC. Vous publiez chez la thèse « Sauf qui parle quand la parole change la vie ». Bonjour Clément Viktorovitch.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po. Vous décryptez l'actualité politique tous les jours sur France Info et ça s'appelle « Entre les lignes ». Vous publiez au Seuil « Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours ». Bonjour Martine Guillot.
Enchantée.
Vous êtes comédienne, voix off, vous intervenez à HEC et vous êtes professeure à l'université Paris-Saclay et vous publiez chez Robert Laffont. Vous allez adorer prendre la parole. Tout un programme.
Hein. Assez clair.
Bonjour Sven Ortoli.
Bonjour.
Vieil habitué de cette émission. Hein. Vous êtes rédacteur en chef du hors-série en kiosque actuellement. L'art de bien parler, c'est très bien fait. Hein.
Merci Ali.
Non mais c'est vrai.
Non mais c'est un excellent numéro, je suis d'accord.
Bertrand Perrier, l'art de bien parler peut nous sauver, peut changer des destins individuels et collectifs. Vous, l'apprentissage de la prise de parole vous a sauvé de votre timidité.
Oui, mais comme tous les gens qui sont un peu timides et qui se forcent un peu à un moment dans leur vie et qui essayent de trouver une voie vers la parole. En plus, j'ai exercé le métier d'avocat, qui a évidemment partie liée particulièrement avec la parole. Un avocat muet, c'est un peu gênant. Et donc, à un moment, il faut effectivement sortir, se faire un peu violence pour sortir de cette timidité. Moi, je l'ai fait par des concours d'éloquence et d'autres peuvent trouver d'autres voies. Et c'est précisément l'objet de ce livre que de raconter des parcours de vie qui ont trouvé chacun une porte d'entrée pour se familiariser avec la parole, avoir une vie plus riche, que ce soit un prêtre, un psychanalyste, un médecin, un soldat, un ado, un braqueur, tous ces parcours qui peuvent inspirer les lecteurs pour trouver leur porte d'entrée vers la parole.
Et vous êtes d'ailleurs reconnu dans le parcours de l'écrivain Alexis Génie.
Ah oui, totalement, parce qu'Alexis Génie, donc le prix Goncourt il y a une dizaine d'années pour l'art français de la guerre, explique qu'il est extrêmement timide et qu'il a été sauvé par l'enseignement. C'est-à-dire qu'il était prof de biologie dans un lycée à Lyon et il explique que le cadre de la classe l'a beaucoup aidé à prendre la parole et que désormais, quand on le rencontre, on ne peut pas imaginer qu'il a été très timide, mais lui, il a été sauvé précisément par la prise de parole devant des élèves. Donc, il y a dans la prise de parole quelque chose d'un peu autoréalisateur, c'est-à-dire qu'il faut commencer à le faire un tout petit peu, même un tout petit peu, pour que ensuite ça marche de mieux en mieux.
Clément Viktorovitch, la prise de parole en public, vous a sauvé de quelque chose dans votre vie ? Question très personnelle.
Je ne sais pas si j'aurais l'audace de répondre ça, mais ce qui est vrai, c'est que la timidité, enfin, en tout cas, c'est comme cela que moi je la vis, n'est pas la même selon le masque que l'on porte. Et moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie quotidienne et dans la vie privée, peut être, alors timide, peut-être pas, mais du moins réservé.
Introverti.
Introverti, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en effet. Et en revanche, dès que des lumières s'allument et un micro est branché, eh bien, tout d'un coup, non, c'est un plaisir de parler en public. rhétorique. Et c'est, je crois, cela aussi qu'on essaye de transmettre quand on enseigne à la fois la prise de parole ou la rhétorique. C'est prendre conscience que la timidité, non seulement n'est pas une fatalité, mais n'est pas la même partout. Et moi, j'ai certaines étudiantes ou certains étudiants qui se révèlent et qui se découvrent, alors qu'ils se pensaient timides, qu'ils se découvrent l'être beaucoup moins qu'ils le croyaient, dès lors qu'ils sont face à un auditoire, un public qu'ils cherchent à convaincre.
Comment vous l'expliquez, ce plaisir de parler en public?
Alors, moi, je répondrais, il y a deux choses. Il y a un plaisir esthétique. C'est-à-dire que c'est un art, la parole en public. Et d'ailleurs, on peut parler en public sans faire de la rhétorique. On peut être éloquent sans chercher à convaincre. Quand vous écoutez de grands acteurs, y compris de grands improvisateurs, Fabrice Luchini, Édouard Baer, ils sont extrêmement éloquents, mais ils ne font pas de la rhétorique, ils ne cherchent pas à convaincre. Donc, il y a un premier plaisir qui est un plaisir esthétique. C'est de l'art et je pense qu'il faut l'assumer comme tel. Et puis, il y a un deuxième plaisir qui se situe à un niveau très différent et c'est celui-là qui, en réalité, en ce qui me concerne, m'intéresse plus particulièrement, c'est le plaisir de défendre ses idées. Car enfin, quand on porte sa parole, on ne porte pas seulement sa parole pour la parole, on cherche à convaincre. Et je ne sais pas, en ce qui me concerne en tout cas, s'il y a un plaisir plus souverain que de défendre une conviction et de la porter le plus haut possible face à des auditeurs et des auditrices.
Martine Guillot.
Très bien dit. Moi, je suis d'accord avec ça. Restez authentique. On a tous une voix. Moi, je suis une voix. J'ai toujours eu une voix très forte. Mon père disait que j'avais une voix de poissonnière. Bah, aujourd'hui, je suis la voix de Dim et de Monoprix. Je sais maintenant l'utiliser, être comédien.
Ah, c'est
vous. Ah ouais, c'est ça aussi. On ne dirait pas comme ça. Mais en tout cas, non, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, on a tous une personnalité. Ouais. Et moi, j'étais aussi une ancienne timide avec une grande gueule. Donc, c'est aussi assez antinomique. Mais j'ai réussi à retenir les chevaux pour paraître un peu plus fluide et ne pas gêner, en fait, parce que ça peut agresser.
Alors, la phobie de prendre la parole constitue encore et toujours une terreur pour de nombreux Français. Martine Guillot, je vous cite dans votre livre, il y a la crainte du regard des autres et de leur jugement, la voix qui se fait chevrotante, les mots qui s'entrechoquent, les mains qui tremblent, la chaleur qui envahit le corps ou le rose qui monte aux joues. Tout ça effraie, et pour beaucoup de Français, parler en public, c'est une horreur totale. C'est pas un plaisir, c'est pas le plaisir décrit par Clément Viktorovitch. Hein.
Effectivement, il y a la rhétorique, il y a le fond, bien évidemment, sans le fond, il n'y a pas la forme. Et puis, il y a, moi, je suis vraiment un coach d'éloquence sur ce que c'est que cette vibration, cette kinesthésie, comment le corps s'exprime et comment, tout d'un coup, les émotions nous envahissent, comment est-ce qu'on devient capitaine de ces émotions. Et je crois qu'il faut comprendre, en fait, ce qu'on donne à voir et ce qu'on a envie de donner à voir. Et ça, c'est intéressant, à qui on s'adresse et comment tout d'un coup on va porter, même si on pense ne pas savoir parler, juste s'appuyer sur ce qui est son authenticité et l'envie de communiquer. La communication, c'est magnifique quand même.
Bertrand Perrier, qu'est-ce qui se joue au fond quand on a peur de prendre la parole en public ?
Il se joue la confiance en soi et l'image de soi. En réalité, la parole a ceci de très différent par rapport à l'écrit, que dans l'écrit, vous maîtrisez tout. Vous ne rendez un écrit que quand vous l'estimez vous-même digne d'être lu par quelqu'un d'autre. À l'oral, l'oral ne se réduit pas au message. Au-delà du message lui-même, il y a une voix, il y a un corps qui parle, il y a des gestes, il y a une posture. Et donc, c'est toute sa personnalité qu'on met en jeu et qu'on met en jugement. C'est assez frappant de voir d'ailleurs qu'il y a une étude qui a été faite en 2019 que je trouve assez fascinante, qui révèle que dès les 7 premiers mots que vous avez prononcés, on vous met dans une catégorie socio-professionnelle. Et on ne se trompe pas, c'est ça qui est le pire. Et donc, dès les 7 premiers mots, en fait, vous avez tout dit de vous.
Sven Ortoli.
Moi, j'aurais mis Bertrand Perrier immédiatement dans la catégorie des orateurs, des grands orateurs, j'ai aucun doute là-dessus. Et Clément Viktorovitch, moi, ce que je voudrais juste rebondir sur une, enfin, vous poser une question. En fait, vous parliez de défendre des convictions. Est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir des convictions pour être un bon orateur?
Non, bien sûr, pour de nombreuses raisons. Mais là, on parlait de quel est le plaisir souverain. Et je disais, il y a un plaisir à porter ses convictions, à porter sa voix. Mais hélas, alors là, je me situe à ce moment-là sur le terrain de la rhétorique davantage que de l'éloquence. Mais quand il s'agit d'emporter la conviction, il y a cette question artistique, c'est-à-dire qu'il y a une part de subjectivité, il y a une part d'inventivité, il y a de grands créateurs rhétoriques dans la sélection des métaphores, dans le choix d'arguments qui sont parfois étonnants, contre-intuitifs mais efficaces. Et puis il y a une part de technique, et donc on peut très bien mettre une excellente technique rhétorique au service de convictions qui ne sont pas les siennes. On peut être un mercenaire de la rhétorique, et d'ailleurs nos amis communicants, communicantes qui font du marketing le savent très bien, ou avocats et avocates évidemment. On peut mettre son élan éloquence, sa rhétorique au service d'une cause qui n'est pas la sienne.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce regard des autres, sur cette angoisse de performance qui peut pétrifier. Martine Guillot, comment se détacher du regard des autres quand on prend la parole en public? Des outils concrets peut-être pour ceux qui nous écoutent.
Alors des outils concrets, déjà il faudrait arriver à se filmer pour se regarder et comprendre ce qu'on donne à voir en fait, parce que finalement on est surpris, on se dit tiens, finalement je sais faire, c'est pas si mauvais que ça, parce qu'on est quand même dans une société où on nous flagelle assez souvent, donc finalement mettre en lumière cette fameuse pépite qu'on porte tous en nous, qui est qu'on est capable de parler, et d'ailleurs à l'Assemblée Nationale ces femmes que j'accompagne ont encore des difficultés à se faire entendre et pas être prises pour des ménagères, pardon pour les hommes, je suis pas spécialement féministe, mais c'est vrai qu'on a envie de les entendre parler parce que peut-être elles n'ont pas justement cet art de la rhétorique, de la bonne formule, et que ça se travaille. Donc oui, je pense que tout le monde peut prendre la parole et doit être révolutionnaire de soi-même.
Bertrand Perrier, un premier outil pour se détacher de ce regard des autres qui peut terrifier?
C'est d'avoir préparé son message en amont, il n'y a pas de secret. Parler, c'est d'abord avoir quelque chose à dire et avoir déterminé son message. Donc après, il y a 1000 techniques de respiration, de visualisation, on y reviendra. Mais d'abord, c'est qu'est-ce que je veux dire?
La clé, c'est peut-être d'accepter ses émotions sans les subir, Martine Guillot.
C'est ce que j'appelle devenir capitaine de ses émotions. C'est vrai qu'elles nous envahissent et donc le corps s'exprime. On a les palpitations, les mains moites, les glandes salivaires qui sécrètent plus de salive. Et donc effectivement, il faut savoir à quel moment elles arrivent, à quel moment est-ce qu'on est déstabilisé pour pouvoir faire donc par la respiration, faire redescendre cette pression. Faire des micro-pauses, des nanosecondes de suspension pour laisser émerger finalement sa profonde conviction et sa pensée, bien évidemment.
Clément Viktorovitch.
Moi, le conseil que je donnerais, pour moi, le premier d'entre eux, c'est de faire le deuil de sa perfection. Et je crois que, en cette mesure, les exemples d'éloquence que nous avons sont peut-être contre-productifs pour celles et ceux qui nous écoutent. Parce qu'enfin, quand on pense à l'éloquence, à quoi pense-t-on? Aux hommes politiques qui font de vibrants discours sur des estrades, aux avocats qui sont et aux avocates qui sont des grands maîtres de la rhétorique. On pense au concours d'éloquence où on voit de jeunes étudiants qui sont extrêmement impressionnants, et le point commun de toutes ces prises de parole, c'est très souvent qu'elles sont presque parfaites parce qu'elles ont été travaillées au millimètre près. Et c'est très intimidant au fond. Quand on voit ça, on se dit mais comment puis-je être à la hauteur de mes propres convictions, de ma propre parole? Et moi je pense qu'au contraire, il faut faire le deuil de la perfection et embrasser à plein son imperfection, parce que c'est justement dans nos défauts, dans nos failles, nos hésitations, nos bafouillements, c'est là qu'on révèle tout ce que nous avons d'humain, d'imparfait. C'est ce qui permet à nos auditeurs de se connecter à nous, et c'est ce qui va nous permettre, nous, de les convaincre. Et une fois qu'on a pris cela en compte, le fait que être imparfait, c'est peut-être la meilleure manière de convaincre, alors ça libère aussi la parole.
Ah, vous me rassurez, je peux bafouiller en paix, Clément Viktorovitch. Bertrand Perrier.
Oui, je vais dire deux choses pour rebondir sur ce que dit Clément et qui est évidemment juste. D'abord, l'expérience de l'audience. À l'audience, vous avez deux types de paroles. Vous avez la parole des professionnels de la parole, et puis il y a l'avocat, qui, le magistrat, le procureur, et puis vous avez la parole de celui qui joue sa peau, qui est la partie civile, qui est une parole complètement cabossée, qui n'a pas été travaillée dans des concours d'éloquence, et pourtant c'est la seule qu'on écoute, parce que c'est celle qui est vraiment sincère, première chose. Et deuxième chose, je vous invite à regarder Envoyé spécial, c'est une pub gratuite ce soir sur France 2, parce qu'ils ont fait un reportage sur un concours auquel j'ai participé la semaine dernière, comme jury, qui était l'éloquence du bégaiement. Et donc ce sont des bègues qui se sont dit, mais on est bègue, mais on peut être éloquent pourtant. Alors, dans le bégaiement, il y a plusieurs formes de bégaiement. Il y a des bégaiements plus visibles les uns que les autres. Et la fille qui gagne, c'est probablement celle qui est la plus visiblement bègue. Mais il n'y a aucun problème. En fait, on n'écoute pas les mots qui se heurtent. On écoute simplement le message, la générosité, la personnalité.
Vous ne le saviez pas, mais la gagnante est au téléphone.
Non, Samira, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, c'est une surprise.
Incroyable.
Bonjour Samira.
Je suis très contente de vous entendre.
Oui, oui. Vous avez gagné ce concours d'éloquence. Hein. Vous êtes atteinte d'un bégaiement. Racontez-nous un petit peu comment s'est déroulé ce concours qui sera donc diffusé ce soir sur France 2 dans Envoyé spécial.
Voilà, exactement. Et ben, c'est une expérience un peu particulière que j'ai vécue et qui m'a tellement apporté que c'était important pour moi de vous le communiquer aujourd'hui. Je me suis inscrite un peu par hasard sur une annonce que avait fait donc le créateur du concours. J'ai envoyé un mail 2 semaines avant le début des préparations, et puis du coup, il m'a répondu le soir même. Donc je me suis inscrite et je me suis rendue 15 jours après à la première masterclass. Donc on a eu la chance d'être préparé par des professionnels de leur oratoire, comme Bertrand Carrier, Stéphane André et d'autres orthophonistes également. Et ben voilà, écoutez, je suis arrivée jusqu'au bout du concours et mardi soir, effectivement, on était devant un parterre de 800 personnes, c'était assez incroyable pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole.
Et comment, Samira, avez-vous surmonté cette peur et comment avez-vous gagné cette confiance en vous? Racontez-nous un petit peu, ça peut servir à nos auditeurs ce matin, hein.
Alors effectivement, ça a été très compliqué au début parce que j'ai pas du tout l'habitude de prendre la parole en public. J'ai un bégaiement qui est très marqué. Alors là, pour l'instant, je bégaye pas, mais j'ai un bégaiement très marqué en général. Mm-hmm. Et effectivement, je retiens les conseils de vos invités. C'est exactement ce qui m'a aidé moi dans le concours. C'est de m'écouter, de me filmer, ce que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Et c'est très très difficile de faire quand on bégaye parce qu'on a des mimiques qui sont très difficiles à regarder. Hein. Moi, il faut l'avouer, c'était pas évident. Mmh. Et la maîtrise de mon discours m'a beaucoup aidée parce que quand on sait ce qu'on va dire et quand on y croit, effectivement, eh bien après, il arrive un moment où on passe le cap, en fait. Et voilà. Et je retiens aussi ce que vous disiez, c'est le deuil de la perfection.
De la perfection.
C'est la première des choses que je me suis dit. Voilà, je sais que je bégaye, je sais que c'est pas exact. Le plus agréable pour un auditoire, mais c'est pas grave, on verra.
Exactement. Bertrand Perrier, un mot.
Bah, je suis très surpris parce qu'il y a un télescopage, je savais pas qu'on avait Samira en ligne. Non, mais c'était extraordinaire parce qu'il y avait chez Samira un naturel. En réalité, moi, ce que j'aime pas dans la parole, c'est la parole qui est trop préparée. Vous savez, les avocats savent que la préméditation est une circonstance aggravante. Je crois que dans la parole, c'est souvent le cas. Une parole trop préparée, trop apprêtée. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça accroche, quand ça bute. Évidemment, quand ça bégaye parfois pour des raisons physiologiques, mais vraiment, dans la parole, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est un message et une personnalité qui, derrière, porte ce message.
Martine Guillot.
Déjà, bravo, merci de ce témoignage qui est très touchant, d'ailleurs, parce qu'en fait, l'éloquence, c'est l'art d'émouvoir et de s'exprimer avec aisance. Ce que j'avais envie de rajouter sur Bertrand, ce que vous disiez, qui est bien évidemment fondamental, c'est que on a tous des personnalités, on doit être authentique, mais pour ça, quel est le bon orateur? Est-ce qu'il y a des bons orateurs ou pas? Est-ce que finalement, celui qui prend la parole, c'est pas celui qui est convaincu de ce qu'il va dire, parce qu'on sait que c'est quand même, vous rendez compte, cette enveloppe corporelle, ce non-verbal qui nous trahit 70% du message, c'est-à-dire qu'on peut avoir un fond de 30% sur la rhétorique si on sait pas le porter. Donc finalement, assumons-nous, quoi, ayons confiance.
Clément Viktorovitch.
Oui, je suis parfaitement d'accord. Et depuis tout à l'heure, on parle évidemment de quelque chose de crucial, qui est la sincérité, l'authenticité, être soi-même. Et moi, je crois que ça se prolonge, y compris jusque dans la forme du discours. Et à cet égard, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur pour moi l'influence parfois néfaste, et en même temps je ne sais pas comment on peut faire autrement, de l'image qu'on a de l'éloquence, qui souvent confère à la grandiloquence. Mmh. Et en fait, quand les gens imaginent être éloquents, ils pensent qu'il faut faire de grands gestes, porter fort sa voix, faire des métaphores, utiliser des jeux de mots, si possible un peu grivois, parce que c'est ce qui fait sourire les membres du jury. Et non, qu'est-ce qu'on a là? On a justement la grandiloquence des concours qu'on peut voir dans l'enseignement supérieur. Et moi je crois que c'est le contraire, et qu'il faut apprendre à porter sa voix de la manière qui nous convient. Et si cette manière, elle confère plutôt au témoignage, si elle va plutôt puiser dans une éloquence poétique plutôt qu'une éloquence du barreau, et ben c'est très bien. Et je crois que chacun doit trouver sa voix, pas simplement en étant soi-même, mais en trouvant la manière de s'exprimer qui lui convient. Et c'est cela, je crois, qu'il faut cultiver aujourd'hui, pas seulement une éloquence, mais toutes les éloquences, parce qu'elles ont toutes les manières de s'exprimer.
Sven Ortoli ?
Je crois que oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Clément, mais j'ajouterais simplement qu'il y a toutes sortes de formes de timidité.
Oui.
Et que et puis d'abord il y a aussi toutes sortes de formes de discours. Ça dépend à qui on s'adresse. Enfin il y a des tas de clés pour ça. Mais pour moi l'un des principaux problèmes c'est le problème numéro un c'est d'avoir quelque chose à dire. Mmh. C'est d'avoir une opinion. C'est pas si simple d'avoir une opinion. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se vainc pour en avoir une. Et je trouve que pour moi c'est ça la première étape.
Merci beaucoup hein, Samira de nous avoir appelé et on pourra donc vous voir ce soir dans Envoyé spécial sur France 2. Tiens, question très pratique, que faire? Voilà, on a une prise de parole en public, que faire si on bafouille, si on trébuche sur des mots, si on est mort de peur et que... Qu'est-ce que vous conseillez, Clément Viktorovitch?
Eh ben, là, c'est intéressant parce que, pour moi, le conseil qu'il faut donner aux orateurs est exactement le même que celui qu'il faut donner aux musiciens. On a coutume de dire qu'en musique, la première fausse note, elle n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est éventuellement les 10 suivantes parce que on est dans de mauvaises dispositions parce qu'on vient de commettre une erreur. Et c'est pareil. Et moi, le conseil que je donne à mes étudiantes et mes étudiants, c'est, vous faites une erreur, bah tant pis. Ou plutôt, tant mieux. Et c'est ce qui va montrer à vos auditeurs et vos auditrices que vous n'êtes pas un robot, que vous n'êtes pas justement une bête de concours et que vous êtes là authentique avec les défauts que vous assumez. Par contre, c'est vrai que si on se laisse déstabiliser, si justement on tombe dans une espèce de spirale introspective en se disant « Oh là là, j'ai commis une erreur, je suis pas parfait, je vais pas convaincre », alors il y en a 10 qui suivent et c'est celles-là qui sont dommageables. Donc encore une fois, embrasser l'idée qu'une erreur n'est pas grave, on a bafouillé, et bah tant pis, ou plutôt tant mieux,
on peut continue. En faire de l'humour aussi.
Alors on peut évidemment rebondir avec humour, on peut jouer avec ses erreurs et tout se passe très bien.
Martine
Bien
Guillaume.
Évidemment, c'est comme les acteurs, on doit préparer, on doit répéter, on doit mettre en bouche ces mots, mais ne pas apprendre par cœur pour garder cette authenticité de ce moment présent, de ce ici et maintenant. Et c'est vrai que si on bafouille, il faut donc l'accepter. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, ça s'acquiert. N'oubliez jamais que une première fois, c'est comme l'amour, c'est toujours compliqué. Puis après, on commence à comprendre comment ça fonctionne et on s'y complaît. Et c'est ça aussi le plaisir de prendre la parole.
Conseil de Bertrand Perrier.
Oui, en effet, pour moi, il y a plusieurs choses. Si vraiment on est en situation difficile avec la parole, c'est de l'assumer, de le dire. Écoutez, c'est difficile pour moi. Je n'ai pas l'habitude, ça n'est pas un art qui m'est familier, et donc je vais faire de mon mieux, mais ça permet de déminer beaucoup d'objections. Et puis la première chose, c'est de se dire aussi que celui qui vous écoute ne vous veut pas de mal.
Ça dépend, évidemment.
Pas toujours, en tout cas.
C'est pas toujours
pas systématique.
Cas,
surtout en période électorale.
il n'y a pas que les discours électoraux, il peut y avoir des discours de mariage, des discours de remise de prix, que sais-je, où les gens ne sont pas, en général, pas toujours.
C'est vrai qu'on est.
On vient pour être ébloui, on vient pour dialoguer, on vient toujours pour tirer quelque chose de la parole de l'autre.
Tiens, Martine Guillaume, dans votre livre, vous conseillez de nous transformer en caméléon de son authenticité. Ça veut dire quoi exactement?
On a tous la vie, n'est pas faite, elle n'est pas plate, elle n'est pas flat, comme diraient les Anglais. Je veux dire, c'est des hauts et des bas. Le cœur a son électrocardiogramme, des hauts et des bas. La prise de parole de l'éloquence, c'est toute une palette, en fait, de ces couleurs-là et de ces émotions. Et c'est vrai que je travaille beaucoup, moi, surtout sur un exercice qui est la palette, la roue des émotions et des adjectifs. Et donc, comment est-ce qu'on incarne ça? Finalement, on se rend pas compte qu'on a cette multitude de couleurs en soi. Et donc, c'est vraiment comme un peintre. C'est ça qui fait sa propre palette et c'est cette découverte-là. Donc, cette prise de conscience qui est, allez, 70% du boulot, en fait. Après 30%, comment tu fais après? Tu vas te débrouiller.
Alors, Clément Viktorovitch, l'art rhétorique, c'est une palette qui permet de mettre en scène son authenticité. Vous défendez une authenticité éthique. Une rhétorique éthique, pardon. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là?
Alors, en fait,
parce que c'est vrai que la rhétorique, des fois, ça peut faire penser à la manipulation, à des choses comme ça. Qu'est-ce que vous défendez dans votre livre?
En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas parler de rhétorique, selon moi, sans se poser des questions éthiques. Parce que la rhétorique, c'est un pouvoir que l'on acquiert sur les personnes qui nous entourent, celui de les faire changer d'avis. Et c'est un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités, comme le veut l'adage. Et puis, au-delà, un pouvoir que l'on acquiert sur et dans la société. Puisque la rhétorique aujourd'hui, c'est le premier outil pour faire changer les choses en intervenant au sein du débat public. Et donc, à partir du moment où on a la question du pouvoir, se pose la question de l'éthique. Alors, quelle est la bonne rhétorique éthique? Et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que cette question-là n'a pas de solution. De quelque manière qu'on prenne le dilemme, on se retrouve toujours dans une voie sans issue, parce que si on dit que la rhétorique éthique, c'est celle qui utilise des moyens honorables, il va falloir savoir définir ces moyens honorables, c'est très compliqué, voire impossible. Si on dit que la rhétorique éthique, c'est celle qui défend une cause éthique, il va falloir s'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'une cause bonne et juste. Et là, je pense qu'on peut discuter très longtemps. Et donc, la seule issue que j'ai trouvée à ce dilemme consiste à dire, pour rendre la rhétorique éthique, il faut la partager à toutes et à tous, parce que la seule manière de garantir qu'un pouvoir s'exerce équitablement, c'est de s'assurer qu'il soit partagé par toutes et tous. Et c'est précisément l'objet de ce livre, redonner le pouvoir rhétorique, les outils rhétoriques à chacun et chacune.
Et je rappelle que la rhétorique, c'est l'art d'argumenter, de plaire et d'émouvoir afin de susciter ou de renforcer l'adhésion des individus aux propositions que nous leur soumettons. Un mot peut-être,
Sven? Oui, je trouve la thèse de Clément très intéressante. J'ai beaucoup aimé son livre. Simplement, elle aboutit à quelque chose qui est insatisfaisant, c'est-à-dire insoluble, en fait, puisque il n'y a pas d'égalité entre, on est tous absolument inégaux du point de vue que vous évoquez.
Alors, insoluble, oui. Et évidemment, le rêve que j'embrasse, que je caresse, celui d'une société des égaux où nous serions toutes et tous parfaitement capable de prendre la parole, c'est un horizon. Mais là où je ne vous rejoins pas, c'est que l'issue du dilemme, en fait, est assez simple. On a été capable d'instaurer une classe de philosophie pour tous les élèves de terminale. Pourquoi n'instaurerions-nous pas une classe de rhétorique pour tous les élèves de première? C'est très facile. En l'espace d'un renouvellement des générations, on a une population entière capable de prendre la parole, d'argumenter, de décrypter les discours. C'est la fin de la langue de bois et le début d'une véritable société démocratique.
Et la réalité, c'est que cette classe de rhétorique a existé jusqu'en 1902. La classe de première était la classe de rhétorique. Et puis, pour des raisons historiques qui sont un peu compliquées, on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on considérait que la rhétorique, c'était quelque chose d'un peu subjectif et on préférait des textes un peu plus sérieux. On a une époque de positivisme à l'époque. Mais là où cette classe aurait sa raison d'être, c'est de deux points de vue en réalité. Parce que la rhétorique, et l'art oratoire d'ailleurs, on l'envisage à la fois comme acteur et comme spectateur. Et c'est là que c'est important. C'est doublement important. C'est important pour le faire soi-même et pour décrypter ce que font les autres. Donc il y a une double dimension de l'éloquence. Être capable de le faire soi-même, c'est une chose. Et repérer les techniques chez les autres pour ne pas être dupe de leurs techniques et adhérer en toute conscience, c'est aussi un autre volet.
Vous avez connu ces classes de rhétorique avant 1902?
Alors, bien sûr, elle était majeure.
Alors, à l'époque, j'étais très bon à l'oral. Mais par la rhétorique, elle revient avec le grand oral. Oui. Enfin, en tout cas, c'est
le grand oral du bac. Hein.
Le grand oral du bac, pardonnez-moi. Oui. Donc, au moins, c'est un endroit où ça se passe.
C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, on travaille beaucoup plus ça. Nous, en France, on commence à vouloir le mettre, mais
commence à venir.
Ça commence.
Dans un instant, vous verrez comment bien se préparer à une prise de parole en public. Juste avant, on écoute Charles Aznavour. Je me voyais déjà.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Charles Aznavour, je me voyais déjà.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
sur France Inter.
10h36, comment bien parler en public, comment se sentir à l'aise dans cet exercice. Tous nos conseils avec nos experts, avec la complicité du hors-série de Philosophie Magazine, l'art de bien parler. Je vous propose d'écouter le jeune Mohamed Iyad Smaïn, qui a remporté l'année dernière le concours Si on lisait à voix haute, organisé par François Bunel.
Vivre n'est pas sûr. Vivre est un vol de papillon dans les flammes. Marcher est un risque. Respirer est un risque.
Passer de la contrainte au plaisir de lire n'a pas été simple.
Ça commence à ressembler.
Il a fallu oser pousser cette porte. Alice Laugier est professeure de lettres classiques. Elle anime un atelier d'éloquence dans ce collège classé en zone d'éducation prioritaire. Ici, les jeux mêlent paroles et gestuelles pour réconcilier les élèves avec les mots. C'est avec elle que Mohamed Iyad a fait ses premiers pas de lecteur.
On s'est rendu compte à quel point le passage par l'oral, le passage par la découverte, je suis capable d'être debout, de dire un texte et d'émouvoir et d'être persuasif, ben ça marche super bien, ça les ramène à l'écrit, ça les ramène à leur capacité de langage.
Pour moi, ça m'a fait littéralement changer de personne, en fait, dans moi, en fait. Je parle beaucoup mieux, j'articule beaucoup mieux, je parle moins vite, on comprenait rien. Mais là, je suis confiant, je sais ce que je dis et j'ai plus peur du regard des autres.
Extrait du JT de France 2, le 14 octobre 2020. Bertrand Perrier, que vous inspire le témoignage du jeune Mohamed Iyad Smaïn, qui aurait pu figurer dans votre livre « Sauf qui parle hein »
Oui, alors en réalité, figure un de ses camarades, qui est Abdallah Semiaï, qui lui a fait un TED quand il avait 11 ans. C'est le premier chapitre de mon livre.
Conférence TED.
Une conférence TED, c'est des conférences qui sont faites généralement par des professionnels de la parole, ou en tout cas qui sont accompagnés par des professionnels de la parole. Et Mohamed se lance avec une conférence sur « Il n'y a pas besoin d'être adulte pour être entrepreneur et avoir confiance et changer le monde ». Donc finalement, ce que je vois chez Mohamed aussi, je le retrouve aussi dans un autre concours qui s'appelle « Les petits champions de la lecture », qui est un truc assez formidable, qui a une double vocation en réalité, c'est-à-dire exhumer des textes, se dire que les textes valent aujourd'hui encore d'être mis en avant, qu'il y a un patrimoine littéraire, poétique, qui mérite d'être oralisé. Et puis après, la confiance en soi et l'éducation des jeunes à l'oralité, avec à la fois un volet de restitution du texte d'un autre, qui est très important, et puis aussi, ce qui pour moi est encore plus essentiel, de dire sa vérité. Parce que la parole, dire le texte d'un autre et le transmetteur du texte d'un autre, c'est formidable, mais dire sa propre conviction, c'était pour moi encore plus fort.
Clément Viktorovitch.
Moi, je trouve ce témoignage merveilleux, déjà d'une part parce qu'il met en lumière ce que nous disions depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que apprendre à parler, c'est aussi se changer soi-même, c'est aussi prendre confiance en soi et porter sa parole, c'est quelque chose qui peut être une transformation intérieure. Et puis, cette tradition dont j'appelle de mes voeux qu'elle revienne sur le devant de la scène, celle de porter le texte d'un autre, celle, au fond, de lire. Et là, il y a quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre de grandes œuvres musicales interprétées par un violoniste ou par un chanteur, et c'est tout à fait normal d'interpréter et réinterpréter d'anciennes partitions, mais au fond, la voix est un instrument comme un autre, la voix parlée est un instrument comme un autre, et moi je crois que voir revenir cette tradition de lire des textes anciens et de les mettre en musique dans sa propre voix, moi je pense que là, il y a quelque chose qu'on ne fait pas assez, et que j'aimerais beaucoup voir se développer.
Alors comment bien préparer sa prise de parole en public. Alors ça paraît évident, mais il est bon de maîtriser son sujet. Bien connaître son sujet permet une sorte d'éloquence naturelle, ou au moins de trouver plus facilement ses arguments. Hein.
Ah bah oui, c'est la première des choses, effectivement. C'est-à-dire que si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous allez avoir du mal à être convaincant. Et bien sûr, c'est le premier conseil à donner pour être bon sur la forme, c'est d'être très solide sur le fond. Parce que déjà, d'une part, ça enlève une grande partie de l'anxiété. C'est-à-dire que l'anxiété de la prise de parole, c'est est-ce que je vais trouver les mots pour expliquer ma pensée? Est-ce que je vais savoir répondre aux questions et aux objections qui pourraient être soulevées? Si vous arrivez et que vous êtes absolument béton sur le fond, toute cette angoisse disparaît. Plus vous êtes fort, plus vous êtes capable de synthétiser votre pensée, et donc plus vous êtes percutant. Et donc la première des préparations, ça n'est pas une préparation technique orale, c'est vraiment la préparation du fond du dossier.
Sven Hortel.
Oui, il y a une phrase que j'attribuerais assez librement à Paul Valéry, mais parce qu'on peut lui attribuer beaucoup de choses. C'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et ça traduit exactement ça. Oui, Valéry, il est bien pour ça. Le deuxième conseil, c'est une fois qu'on maîtrise, en admettant qu'on le maîtrise, son sujet, c'est de savoir à qui on s'adresse.
Oui, exactement. Martine Dio, c'est important.
C'est très important, mais c'est aussi intéressant de savoir qu'on est toutes des personnes avec des cultures différentes, des milieux différents. Et ça, ce qui est le plus important, c'est de prendre conscience de ça, c'est-à-dire de savoir d'où on vient et où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on transforme, surtout comment on prend conscience de ça et comment on l'utilise à bon escient pour finalement, même si on a un accent ch'ti ou autre, moi on m'a dit que j'avais un accent titi parisien, donc je vais me tais sur les accents, mais c'est aussi une confirmation de cette voix, V-O-I-X, V-O-I-E, et donc qu'est-ce qu'on fait de cette voix et comment est-ce qu'on la transmet avec ses atouts en fait, de ce que l'on est fait. On va pas aller chercher à devenir des acteurs. On est déjà acteurs de soi-même.
Sven me disait, il est important de connaître son public. Évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière à une classe de CM2 ou une assemblée de copropriétaires.
Oui, ça fait partie des deux ou trois questions qu'il faut se poser avant de parler en public. Il y a trois, quatre questions qu'il faut se poser. La première chose, c'est à qui je parle. La deuxième chose, c'est quelle est l'image que je veux donner de moi. La troisième chose, c'est très important, c'est quel est le temps dont je dispose. Parce qu'on parle pas non plus en deux minutes de la même façon qu'on parle en une heure. Et puis, la dernière chose, pour moi, c'est l'émotion que je veux donner. C'est-à-dire, quel est mon message, mais aussi quelle est l'émotion? Est-ce que je veux le transmettre par le rire? Est-ce que je veux le transmettre par la raison? Est-ce que je veux le transmettre par la force? Donc, la question de quelle émotion, quel registre je veux utiliser?
Tout à fait. L'humeur, l'humour, dans quel état d'esprit on est? Est-ce qu'on est obligé d'être optimiste tout le temps? Est-ce que finalement, c'est justement pas ça qui crée en fait une bonne éloquence? C'est toute cette diversité émotionnelle.
Oui, c'est vrai que l'adaptation à l'auditoire, le fait de commencer par se poser la question des personnes que nous avons en face de nous, c'est le tout premier conseil en éloquence, mais également en rhétorique. C'est-à-dire qu'un bon orateur ou une bonne oratrice, c'est quelqu'un qui va être capable d'adapter déjà un petit peu le choix de ses arguments aux personnes qu'il a en face de lui ou elle a en face de lui, mais au-delà de ça, qui va être capable d'adapter le choix de ses métaphores, de ses images, le choix de ses mots, essayer de trouver quels sont les leviers qui vont convaincre, non pas dans l'absolu, une abstracto, non pas convaincre un auditoire fictif qu'on aurait, qui flotterait au-dessus de nous, mais ici et maintenant, les personnes qui sont là en face de moi, et trouver ce levier pour porter ma parole et mes arguments et mes convictions face aux personnes qui sont là, c'est dans cette adéquation qu'on est le plus convaincant.
Au quotidien, on le fait sans le savoir. Et donc, c'est justement ça. C'est comment on en prend conscience, hein, on est d'accord? C'est comment on en prend conscience pour pouvoir l'incarner.
Bonjour Caroline, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quel est votre témoignage ou votre question?
Alors, je voulais dire, c'est un témoignage, je voulais raconter que j'ai passé un DEA il y a très très longtemps. J'étais très bien préparée oralement, enfin je veux dire, j'avais répété avant, bien que je n'ai jamais eu de cours de rhétorique. Et j'ai dû le soutenir devant une vingtaine de personnes qui étaient des professeurs, qui étaient mes pairs. Et j'ai eu un discours très très, comment dire, très ennuyeux. Ça a été catastrophique. D'ailleurs, ma note finale s'en est ressentie. C'était épouvantable. Et j'ai passé un très mauvais moment. Et 3 ans après, j'ai soutenu ma thèse. Donc là, c'était plus long. C'était 1 heure. C'est public. On a aussi ses amis, sa famille. On a des professeurs, mais pas seulement ceux de l'université, mais ceux de toute la France, éventuellement de l'étranger, qui viennent écouter. Et donc, il y a aussi un public de spécialistes. Dans les deux cas, c'était un jugement. J'allais être jugée sur ce que j'allais dire. Et la thèse, ça s'est super bien passé parce que je crois que j'ai ressenti le fait que c'était moi la spécialiste, que c'était moi qui connaissais le mieux le sujet.
Exactement.
Et que donc j'avais cette confiance dont t'as parlé un de vos invités. Et ça a tout changé. Et ça a été vraiment, comment dire, 1 heure de bonheur, même pour moi. Et donc, je voulais dire qu'à cette époque-là, on n'apprenait pas à parler dans les universités. Il n'y avait même pas vraiment de séminaire où on pouvait développer un petit sujet. Et que cette formation nous a manqué, probablement pour ces deux aspects, mais aussi dans la vie, tout le temps, il faut qu'on parle, il faut qu'on passe des entretiens d'embauche, qu'on convainque des gens pour je sais pas quoi. Et que c'est vraiment une très très bonne chose qu'il y ait maintenant une épreuve d'oral au bac. Et j'encourage vraiment les jeunes à essayer de parler, déjà commencer de parler d'eux, de se présenter en employant des mots corrects, parce que souvent ils ne savent pas s'exprimer. Et petit à petit, ça viendra et ce sera une aide pour eux pour le futur.
Bertrand Perrier aimerait vous répondre.
Non, ce que je trouve intéressant, c'est le lien que vous faites avec le grand oral du bac, parce que précisément, il y avait déjà des oraux, mais c'était souvent des oraux de restitution de connaissances. Et la modification qu'apporte le grand oral du bac, c'est un peu la modification entre votre DEA et votre thèse. C'est-à-dire que dans le grand oral du bac, pour la première fois, les élèves sont moteurs de leur propre épreuve, dont ils choisissent eux-mêmes le sujet, évidemment encadré par leurs enseignants, mais ils choisissent un thème qui les intéresse parce que ça correspond à un hobby, parce que ça correspond à un souhait d'orientation, parce que ça correspond à un stage, un voyage, une orientation professionnelle. Et donc, ayant choisi ce sujet, ils vont parfois l'exposer devant des professeurs qui le maîtrisent moins bien, mais ils vont se trouver dans une situation de front renversé. C'est à eux de faire preuve de pédagogie et surtout d'argumentation. Car cette épreuve n'est pas seulement une épreuve de restitution de connaissances, c'est aussi une épreuve d'argumentation où les élèves sont pris pour des adultes. Et ça me paraît très nouveau et très important.
Clément Viktorovitch.
Oui, c'est vrai que de voir revenir enfin l'oralité et l'art de convaincre au sein de l'enseignement secondaire via ce grand oral, c'est quelque chose de très enthousiasmant. La question qui commence à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on transmet. Est-ce qu'on transmet simplement l'éloquence, l'art de bien parler, ou est-ce qu'on va véritablement progressivement en faire un véritable enseignement de la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre et de décrypter les discours. Et là, il y a un choix pédagogique qui est aussi un choix politique, et je suis pas sûr qu'il ait encore été très bien tranché.
Alors, c'est d'autant que c'est quand même la seule épreuve qui n'y a pas de matière correspondante.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il y a une épreuve, mais il n'y a pas d'enseignement.
Zéan Ortoli.
Oui, en fait, deux remarques. L'une, c'est à propos de ce que vient de dire Bertrand, c'est que il y a une capacité très importante lorsqu'on veut être capable justement d'éloquence, de prononcer un discours, c'est d'écouter. C'est d'écouter l'autre dans un débat. Là, par exemple, c'est d'écouter et de réagir à ce que vient de dire l'autre. Dans un débat, c'est une, si on se maintient sur une ligne, la ligne de sa pensée, sans écouter, sans cette capacité d'improviser, on se perd. Et la deuxième chose, c'est que le grand oral, il est très critiqué, en particulier en philosophie, par beaucoup de professeurs de philosophie, puisque c'est quand même le grand débat qui oppose la philosophie et la rhétorique depuis Platon. Et donc il est très critiqué sur le thème, on fait pas du fond, on fait de la forme. Et il y a aussi du vrai dans cette critique, mais elle me semble moins fondée, enfin, ou plutôt, elle me semble en partie infondée, parce que au fond, la démocratie, c'est le débat, la démocratie, c'est la parole, et c'est ça qu'on essaye d'apprendre à ces jeunes terminales.
Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir appelés. Bertrand Perrier, tiens, peut-être un petit conseil. Comment bien débuter et bien terminer sa prise de parole? Je crois qu'en rhétorique, on appelle ça l'exorde
et
la péroraison. Est-ce que vous avez des conseils, Clément Viktorovitch, Bertrand Perrier?
D'abord, sur le démarrage, il y a plusieurs possibilités. Il y a le trait d'humour, il y a raconter une histoire, et puis il y a rebondir sur ce qui a été dit avant. Moi, c'est toujours ce que j'essaye de faire, parce que ça permet d'être dans le ton, d'être dans la continuité, d'être dans la spontanéité, et on est sûr que comme ça, il y a une continuité, et que notre parole ne vient pas de n'importe où, et qu'elle est dans l'ambiance. Voilà. Donc moi, je crois que pour démarrer, on peut s'inspirer de ce qui vient d'être dit, si quelque chose a été dit auparavant. Sinon, il y a l'exorde assez classique, hein. Je suis très content de venir parler devant vous, et ça marche très bien. Nous, les avocats, on dit, je représente aujourd'hui les intérêts de monsieur machin. Ça fait des premiers mots qui valent pas grand chose, mais qui au moins tiennent lieu de premiers mots.
Au moins, c'est une valeur sûre.
Bah oui.
Clément Viktorovitch.
Alors moi, c'est drôle, parce que dans le livre, c'est un sujet que j'essaye de traiter extensivement, l'art de l'exorde. Oui. Et Bertrand, cet exorde dont tu parles à l'instant, qu'on appelle descriptif, moi, je recommande de plutôt pas l'utiliser, et d'essayer, mais tout dépend évidemment, comme toujours, du contexte.
Pour moi, pardon, hein, c'est le parachute ventral, hein. C'est si j'ai pas mieux,
je c'est exactement ce que je dis. Et c'est exactement ce que je dis, c'est que bon, faute de mieux, c'est pas si pire, mais quand même, essayons d'élever un peu. Donc, c'est vrai que j'essaye, mais tu l'as très bien dit, j'essaye de proposer une douzaine d'exordes, de types d'exordes, qui sont ce qu'on appelle des exordes ex abrupto, qui permettent de rentrer directement et de capter instantanément l'attention. Et donc, il y en a vraiment un très grand nom. Bah, alors, l'anecdote, effectivement, très efficace, le trait d'humour, on peut aussi dire la contre-intuition, c'est-à-dire commencer en disant le contraire de ce qu'on attend de nous, ou la provocation. On se souvient par exemple d'Edouard Baird lors d'une cérémonie de remise des Césars, qui commence en insultant les auditeurs qu'il a en face de lui, en disant « Voilà, le jury est rassemblé, vous n'y êtes pas, c'est dur quand même !» Et en fait, quand c'est fait avec beaucoup de bienveillance et en même temps beaucoup d'audace, ça peut totalement capter l'attention et emporter déjà l'adhésion.
Et comment bien terminer?
Alors ça, c'est important.
La péroraison.
La péroraison, bien terminée, souvent, c'est laisser un impact émotionnel, et très souvent l'impact émotionnel qu'on veut avoir, c'est soulever des applaudissements. Et pour ça, c'est très intéressant. Il y a des techniques, il y a même une équation. Ça a été très bien identifié par la science politique et la linguistique. C'est ce qu'on appelle les clap traps, les pièges à applaudissements. Et je montre ça aussi dans le livre. Il y a une équation. Il suffit de créer un point de saillance, c'est-à-dire un point d'orgue dans son discours, et ensuite donner un sentiment de résolution. Il y a plein de techniques rhétoriques qui permettent de le faire. Et presque mathématiquement, on est couronné par une salve d'applaudissements.
Et je sens qu'il est très fort en péroraison, Bertrand Perrier. Je sais pas pourquoi.
Je termine bien en général, c'est ça.
Il gauge that.
Non, mais c'est vrai, il y a plusieurs techniques de péroraison, en effet. Et parfois, on voit qu'elles sont ratées. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression qu'il veut terminer, puis il termine pas. Alors moi, j'ai un exercice que je fais faire avec mes élèves. C'est que je leur dis, si vous considérez que le discours est terminé, vous tapez dans vos mains. Et tant que vous n'avez pas tapé dans vos mains, il doit continuer. Parce que c'est qu'il n'a pas suffisamment fait sentir que c'était terminé.
Allez, dans quelques instants, nos experts vous délivreront des conseils pour bien incarner vos idées, travailler sa gestuelle, son expression, bien placer sa voix. Ce sera juste après C'est la Chou qui interprète Array.
You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Your attention seeking and you live for the light. I can't figure out, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache.
Chou interprété Array.
Pardon, je m'en prends. Je suis parti un peu vite.
Grand bien vous fasse.
Pourquoi là, c'est moi qui viens te chercher. Et qu'est-ce que c'est ce téléphone? Qu'est-ce que c'est, les enfants criants?
Sur France Inter.
Allez.
10h54, comment bien parler en public, comment se sentir bien dans cet exercice. Alors avant d'écouter les conseils de Marcel, Martine Guillot, quels sont vos conseils en matière de regard, de gestuelle, de posture, de respiration, pour bien incarner sa prise de parole? Vos conseils, mais vraiment basiques.
Alors, la posture, comment on est ancré et en même temps pas figé, parce qu'il faut que ça circule, on est fait de vaisseaux sanguins, il faut que l'oxygène circule, il faut qu'on soit donc en mouvement, se chalouper, comme j'aime dire. Et puis, effectivement, ce regard qui doit être distribué, ou en tout cas à qui on s'adresse, on n'est pas obligé de regarder dans les yeux, on peut regarder le crâne ou les épaules. Et puis, bien évidemment, cette respiration, ce diaphragme, qui souvent est à 30% de sa capacité et qui est quand même dans le ventre, 250 millions de neurones, le deuxième cerveau, pas seulement que émotionnel.
Dans l'intestin.
Eh ouais, et donc ça, c'est intéressant, là où il y a le cœur et le poumon, c'est toute cette cage thoracique. Et puis, ce non-verbal, donc qu'est-ce qu'on fait de ces bras qui nous embarrassent?
Qu'est-ce qu'on en fait, tiens, justement? Qu'est-ce que vous conseillez?
Bah écoutez, on accompagne en tout cas son propos comme on peut. Moi, je sais que je viens du sud de la France et mes copains de la Comédie Française disent que je sers des plats. Donc à un moment donné, ça devient aussi un tic, non pas verbal, mais gestuel. Donc cette kinesthésie m'embarrasse. Donc on utilise un bras et puis un deuxième vient à la rescousse et puis le premier est puni. Voilà, on essaye de trouver cette cette fluidité, mais c'est pas toujours facile. Ça se travaille.
Un grand conseil, ne pas prendre peut-être de grandes inspirations avant la prise de parole parce que ça peut bloquer. Ça peut paraître contre-intuitif, mais...
Complètement, mais de toute manière, c'est intéressant quand on parlait de l'attaque, de l'amorce, du démarrage. Il y a effectivement cette manière de respirer avant de parler, qui est importante déjà pour faire redescendre...
Abdominale,
si c'est possible, pour pas rester thoracique et trop cérébrale. Donc être dans le ressenti de ses émotions.
Et nous accueillons Marcel. Bienvenue Marcel.
Bonjour, oui.
Alors, quels sont vos conseils ?
Je n'ai pas cette prétention, simplement un témoignage. J'ai retraité aujourd'hui, j'ai été responsable de service dans une petite entreprise. La réunion de cadre, chaque semaine, était une épreuve pour moi. Je m'arrangeais toujours pour me placer le dos à la fenêtre. Parce que lorsque j'avais à m'exprimer longuement, je rougissais. Et pour cacher ce rougissement, je feignais une quinte de toux. Voilà.
C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, nous inviter à Kies, dans le studio.
C'est vrai qu'on doit tous trouver, il faudrait trouver une parade, en fait. Oui. Chacun se connaît. Oui. Donc, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on met en place? Alors, est-ce qu'elle est paralysante ou pas? Mais bravo, en tout cas. Oui. Aussi, vous étiez donc à contre-jour. On ne voyait pas votre rougissement. Bravo,
merci,
madame.
Merci pour votre conseil, Marcel. Tiens, Pierre nous écrit sur notre page Facebook. C'est Léo Ferré qui m'a aidé à parler en public. Il avait déclaré que pour éviter le trac, il suffisait de repérer une personne dans l'assistance et de parler à cette personne. J'ai commencé comme ça et ça m'a bien aidé. Clément Viktorovitch.
Oui, c'est parfaitement vrai. On trouve toujours dans l'auditoire quelqu'un de bien intentionné qui fait de grands sourires. Autant s'appuyer sur lui ou sur elle, ça mange pas de pain. Moi, si j'avais deux conseils à donner, le premier, et les deux sont presque un peu contre-intuitifs, le premier, c'est d'embrasser le silence. Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais en fait, la première arme de l'orateur, c'est le silence, c'est de se sentir bien dans le silence. Ça permet de faire respirer sa parole, de donner du poids, de la solennité à son propos. Et puis, ça laisse un peu le temps de réfléchir. Et parfois, nous en avons besoin. Et le deuxième conseil, qui est presque étonnant aussi, c'est de faire confiance et de se recentrer sur... Alors ça va paraître un peu New Age, mais sur son intention. Et moi, très souvent, j'ai des étudiantes ou des étudiants qui font une prise de parole qui n'est pas super. Et il y aurait plein de choses à dire techniquement sur la posture, la respiration, le regard. Et je me dis que si je fais ça, je vais les noyer. Je pose juste une question, je dis mais qu'est-ce que vous vouliez faire là, en fait, en parlant? Et très souvent, ça suscite un peu d'étonnement chez les étudiants. Et la réponse qui finit, c'est bah, je voulais survivre à ma prise de parole. Et je leur dis, bah, alors, recommencez, mais faites-le cette fois avec une autre intention. Essayez de convaincre et simplement en mettant son intention sur la conviction, eh bien, il y a toute la technique qui se transfigure et laisser guider la technique par l'intention, c'est souvent un bon premier conseil.
Excellent conseil. Un dernier conseil, peut-être Bertrand Perrier.
Oui, peut-être structurer.
Le mot de la fin.
Structurer
l'apéro
sa pensée.
Raison.
C'est très important. Structurer, c'est-à-dire avoir une idée très claire de son parcours. Ouais. C'est pas nécessairement avoir tout écrit, mais avoir au moins quelques mots-clés et savoir quel est son parcours, un peu comme dans un slalom ou sur une carte routière. On sait qu'on va s'arrêter là, on sait qu'on va s'arrêter là et on arrivera à bon port.
Martine Guillot.
Prendre sa place et s'affirmer.
Oui, mais c'est une très bonne fin. Je conseille vos trois livres qui sont très complémentaires. Merci Bertrand Perrier. Sauf qui parle, quand la parole change la vie, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci Clément Viktorovitch. Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours, c'est publié au Seuil. Martine Guillot, vous allez adorer. Prendre la parole, c'est chez Robert Laffont. Évidemment, le hors-série de Philosophie Magazine, excellent. L'art de bien parler, très bien fait, vraiment très clair. Et disponible en kiosque avec une belle couverture de mon cher Sampé.
Avec une très belle interview de Clément Viktorovitch. Et une magnifique interview de Bertrand Perrier.
Demain, grand bien vous fasse loisir.